Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Baudouin Verken, cofondateur d'Ecotree. Baudouin et quatre autres amis d'enfance ont fait le pari fou d'agir pour la forêt française afin de la préserver. Avec un concept qui peut paraître simple et trivial au départ, ils ont en fait construit un système économique solide, au sein duquel l'arbre est l'unité de base. Chaque forêt est durablement gérée et entretenue par des gardes forestiers. J'espère que cet épisode, enregistré durant cette longue période de confinement, vous plaira. Belle écoute à tous! Alors, pour commencer cet épisode de Basilic, est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, par vous présenter?
Très bien. Alors, moi, je suis Baudouin Verken, cofondateur d'Ecotree, et j'ai 35 ans.
Parfait. Donc, Ecotree, on va en parler. Vous êtes cofondateur avec quatre autres amis à vous.
Tout à fait.
L'envie est née de créer Ecotree il y a quelques années maintenant, puisque c'est une jeune entreprise, mais qui est quand même bien établie. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, expliquer aux auditeurs la mission d'Ecotree?
Alors, la mission d'Ecotree, c'est de mettre en relation, en fait, la forêt, le sujet de la forêt française, avec le grand public et les entreprises. Donc, tout simplement, en fait, on permet à tout un chacun de devenir propriétaire d'arbres qui sont plantés dans des massifs forestiers en France, pour lesquels Ecotree assure toute la gestion de ces massifs. Dans notre modèle cœur, en fait, on fait l'acquisition en fait de terrains, de parcelles ou de forêts existantes en carence de gestion. Nous, on fait notre premier métier qui est notre travail de forestier, avec cette expertise forestière qu'on apporte à la forêt. Et après, on permet au grand public et à tout le monde d'y participer, puisqu'on a on a développé une plateforme qui s'appelle Ecotree maintenant.green, qui permet justement à des particuliers ou à des entreprises engagées de venir contribuer en finançant à l'unité des arbres sur notre site internet.
D'accord. Et j'aimerais, pour que les auditeurs comprennent bien pourquoi il est important d'agir et de protéger les forêts françaises, que vous nous expliquiez pourquoi c'est important de gérer de manière durable nos forêts ici en France et quelle est la situation actuelle.
Alors, pourquoi gérer durablement? Alors, ce n'est pas que la spécificité de la forêt française. En fait, dans ce contexte de confinement, le sujet de la durabilité, en fait, est un sujet qu'on doit tous avoir en tête et qu'on doit tous porter, en fait, finalement, sur toutes les actions et tous les pans de notre vie pour bien faire, puisque c'est ça qui assure la pérennité des choses et qui la rend transmissible aux générations futures. En France, nous l'enjeu, l'enjeu en France, c'est d'assurer en fait le renouvellement de cette forêt française. Alors, on a beaucoup de chance quand même en France, c'est qu'on a une forêt française qui est riche en variétés d'essences, qui a un couvert forestier qui est assez conséquent. Néanmoins, elle a besoin d'être renouvelée et elle a besoin, comme toute chose, d'être gérée durablement. Et pour ce faire, ça nécessite des moyens. Et ces moyens, ça passe par du savoir-faire, du temps, de la connaissance et du financement. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, la mission d'Ecotree, c'est de répondre à tout ça et d'agir justement en faveur du renouvellement de la forêt française et de sa bonne gestion durable à travers ce mécanisme innovant où vous pouvez financer la propriété d'arbres qui sont plantés sur des massifs forestiers en France et gérés par Ecotree. Avec une vertu et une équation vertueuse surtout, c'est que la personne qui finance cet arbre, en fait, elle se crée un patrimoine vert au sens noble du terme, puisque ce patrimoine, c'est un patrimoine qui se constitue, donc qui remplit son office, un, environnemental, et deux, qui a aussi une valeur économique, puisqu'un jour, en forêt, quand elle est bien gérée, elle produit du bois d'œuvre. Et ce bois d'œuvre, ça a de la valeur, puisque ça a de la valeur parce qu'un bois d'œuvre, par exemple, c'est ce qui a pu, ce qui peut permettre, par exemple, de faire la charpente de Notre-Dame de Paris. C'est un bois qui a une valeur économique. Et du coup, on la rétribue à ceux qui ont financé et qui ont permis en fait cette plantation et qui ont permis de contribuer à cette gestion durable des massifs qu'Écoterie assure au quotidien.
Aujourd'hui, la France, est-ce qu'elle importe majoritairement du bois d'œuvre ou est-ce qu'elle arrive à le produire ici sur le territoire français?
Alors, ça, c'est un peu notre tragédie à la française, c'est que on a un couvert forestier qui est qui est conséquent hein, en France, hein, puisque un tiers du territoire, on a de la chance, c'est de la surface forestière. On a l'écueil, et c'est ça un peu le drame, de se produire un peu comme un pays en voie de développement qui peut être en capacité de produire de la ressource ou de la matière première, puisque ce bois issu d'une forêt, pour une grande partie, en fait, il va être directement envoyé, par exemple, en Chine pour être transformé et après être réimporté en France en produit fini.
D'accord.
Donc, c'est là toute la frustration de se dire que nos forêts où on a, par exemple, fait pousser des chênes pendant des centaines d'années, peuvent être transformées en Chine pour être payées, au final, le prix fort en importation par la France.
Oui, donc c'est pas très logique.
C'est pas logique et c'est pour ça que nous aussi, dans cette mission Écoterie, on anticipe aussi ce sujet-là pour se dire quand dans nos forêts des coupes doivent être faites, met en place une charte et un cahier des charges très précis avec des scieries locales pour que ce bois reste en circuit court avec des acteurs locaux et que aussi ça vienne satisfaire ces enjeux en fait sociaux, sociétal et environnemental et que on puisse transformer derrière cette ressource bois sur place et qu'elle puisse être utilisée sur place et surtout éviter cette absurdité d'un point de vue carbone de faire voyager des grumes à l'autre bout de la planète. Ça n'a pas de sens.
Ce qui veut dire que vous, quand vous décidez de couper du bois en forêt et que c'est nécessaire, vous pouvez aussi après décider des personnes à qui vous allez le vendre ou non ?
Alors nous, on a dans notre devoir de gestion, on inscrit toutes nos forêts à travers un itinéraire sylvicole, donc avec un plan de gestion, qui est l'architecture, qui est le plan de gestion de la forêt. Le jour où il y a des coupes, on doit sélectionner, on va dire, des acheteurs de ces arbres et il faut qu'ils répondent à des critères très précis puisque ces critères l'idée comme ce que je vous évoquais juste précédemment il faut que ça favorise des structures locales avec et que ça permette de bénéficier à la filière.
Si on investit chez vous et qu'on décide d'acheter des arbres, c'est une garantie que vous mettez en œuvre pour vos clients.
Exactement. C'est la philosophie et le mode opératoire qu'on met en place et qu'on va continuer à mettre en place.
Et quand vous décidez de lancer Écoterie, est-ce que le constat, c'était qu'en France, les forêts étaient mal gérées, que les propriétaires peut-être n'avaient pas les fonds nécessaires pour gérer leurs forêts ? Comment ça se passait ? Parce que je sais que ça appartient majoritairement à des personnes privées.
Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, en fait, ce constat, il a été nourri par l'un des cofondateurs qui s'appelle Vianney, qui lui est forestier. Voilà. Et lui, c'est lui qui nous avait partagé les grandes métriques de la forêt française en disant, c'est dommage parce que on a quand même de l'or vert sous la main. On a beaucoup de forêt. C'est vrai qu'elle est détenue majoritairement par des propriétaires privés. Et la forêt française, en fait, ce qui rend sa spécificité, c'est qu'elle est très morcelée et très parcellisée. En fait, vous avez beaucoup de petites parcelles forestières qui appartiennent à des petits propriétaires. Et ce morcellement et cette parcellisation rend très compliqué, en fait, la gestion parce que tout simplement, vous ne pouvez pas mutualiser les coûts, les frais de gestion ou l'entretien. Et du coup, partant de ce constat-là, moi qui avais plus un profil, moi je venais du métier du conseil, j'ai une formation école de commerce, je me suis dit, mais c'est quand même, à l'heure du digital, à chaque problématique, il y a forcément des solutions. Et c'est là où du coup, on a réfléchi à plusieurs cerveaux pour se dire, mais comment on peut apporter une réponse tangible, palpable et concrète à ces grands enjeux et à ces grands défis de la forêt française. Et c'est comme ça qu'on a travaillé autour de cette logique de l'approche à l'unité où on permettrait justement à n'importe qui de devenir propriétaire d'un arbre. Donc ça a été vraiment nourri sur les constats de la forêt française.
Et une fois que vous avez acheté une forêt, comment ça se passe concrètement? Comment vous allez la réhabiliter? D'abord, j'imagine qu'il va falloir relever les essences d'arbres qu'on peut trouver sur le terrain acquis.
Très bonne question. Déjà, alors pour bien que les gens comprennent, nous, on s'inscrit sur tous les types de défis forestiers. C'est-à-dire qu'on peut se positionner soit sur de la terre en friche ou de la terre anciennement agricole, et là, du coup, on est dans de la création de forêts, ou on se positionne aussi sur des forêts existantes qui ont subi soit des coupes rases, donc c'est-à-dire que l'ancien propriétaire n'a pas rempli ses obligations de reboisement, et donc il faut tout refaire, soit sur des forêts déjà existantes, mais qui sont des forêts en gestion non dynamique ou en carence de gestion, c'est-à-dire qu'il n'y a, voilà, a pas eu d'ingénierie forestière. Voilà, ça c'est les contextes dans lesquels on intervient. Nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on identifie un projet, il fait l'objet d'une étude. Donc l'étude, c'est vraiment de l'expertise forestière, c'est que on va se rendre sur place, on va cartographier le lieu, on va faire les études de sol, on va comprendre l'historique de ce qu'il y a eu avant ou de ce qu'il n'y a pas eu, de ce qui n'a pas été fait. Et là, on va réfléchir et bâtir un itinéraire sylvicole, un plan de gestion, donc avec un calendrier, une typologie d'essence. On va créer toute cette ingénierie forestière. Et puis surtout, on va la faire, on va la mettre en place. Donc après, il y aura une équipe, dans le cas d'une plantation, qui va programmer cette plantation et la réaliser pour que le projet aille jusqu'au bout et que tout ça soit inventorié et tracé et qu'après tout ça soit digitalisé pour rentrer dans nos outils de gestion en interne écoterie qu'on a développé maison, qui est un outil de back-office, où on recense toutes ces parcelles et surtout toutes ces unités d'arbres qui juridiquement ont une valeur puisque n'importe qui peut les financer et devenir propriétaire. Donc on a toute une logique de bonne gestion avec un process très précis puisque on a un enregistrement auprès d'une autorité pour lequel on doit rendre des comptes sur le nombre d'arbres qu'on peut mettre à disposition sur ecotree.green, sur les itinéraires sylvicoles. Donc, comment ça se passe.
Donc c'est très encadré.
Très encadré, exactement. Et ça a été aussi notre souhait dès le départ parce qu'on a fait le pari fou en fait, d'agir pour la forêt française. Et forcément, la réglementation française a ses spécificités parce que déjà, on a des normes, des réglementations, on a un coût de la vie qui est à la française, on a de la chance quand même d'avoir une culture multicentenaire sur la forêt, quoi. C'est comme la forêt, on pourrait la comparer aussi comme en France au grand défi de la vigne, des vieilles pierres. Voilà, et donc on a voulu s'inscrire dans tout ça, et tout ça nécessite beaucoup de prérequis, et nous on a voulu aller au-delà de ces prérequis pour avoir quelque chose de ultra qualitatif, ultra réglementaire, ultra certifié, ultra traçable.
Est-ce que vous vous êtes inspiré de situations qui pourraient être similaires ailleurs en Europe ou c'est complètement innovant?
Alors c'est complètement innovant puisqu'aujourd'hui on est les seuls en fait en France, en Europe et dans le monde à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire ce modèle, alors je le caricature volontairement pour nos auditeurs, mais du concept qui paraît très léger de « adopte un arbre », alors que derrière ce « adopte un arbre », c'est vraiment concret. On a permis en quelques clics et en quelques secondes d'impliquer des gens pour financer et donc du coup être acteur derrière. Acteur en participant au grand défi de la forêt française. Derrière, ça soulève tellement de mécanismes juridiques, fiscaux, réglementaires, même d'expertise forestière et autres. Aujourd'hui, il n'y a personne qui ne fait ça. Donc on s'est vraiment pas inspiré ou copié d'un autre acteur. On est vraiment parti on est parti d'un constat sur la forêt française et d'une conviction profonde que on pouvait apporter notre pierre à l'édifice peu de pierre à l'édifice pour permettre à cette forêt française de contribuer à son renouvellement et à sa bonne gestion.
Donc c'est un système qu'on pourrait imaginer démocratiser partout en Europe et dans le monde. J'imagine que la situation est la même pour les forêts ailleurs.
Alors exactement, alors c'est vrai que il y a des problématiques forestières dans tous les pays du globe. Et donc ce qui est sûr, c'est que finalement cette rampe de lancement qu'on a mis en place pour la forêt française, on pourrait très bien l'avoir pour d'autres forêts du globe, avec toujours cet enjeu et cette volonté de bien faire, de se dire ce qui est toujours très compliqué, c'est de s'adapter aux spécificités des pays. Sachant que nous, l'avantage là de les porter aussi en France, c'est que nous on réalise cette expertise forestière, on a un cadre réglementaire par exemple qui interdit de faire n'importe quoi quand on bâtit un plan de gestion. Donc il ne peut pas y avoir de braconnage forestier, il y a un code forestier à la française, qui est quand même cet héritage de Louis XIV. Dans certains pays du globe, notamment sur des forêts primaires, vous n'avez pas de code forestier, vous avez du braconnage, donc il faut aussi garantir et contrôler en fait tous les projets derrière qui sont portés et que nous on porte au quotidien, Donc ça c'est aussi un gros enjeu qu'il faut pouvoir assurer.
Oui, donc pas aussi facile à mettre en œuvre que ce qu'on pourrait croire. Ça va beaucoup plus loin. Comme vous le disiez de manière assez simple, c'est adopte un arbre, mais il y a une logique derrière qui est quand même beaucoup plus poussée.
Oui, parce qu'il y a en fait il faut alors oui parce qu'il faut cadrer et surtout faut faire et piloter les projets. Après, si on approfondit un peu le sujet de la forêt, il y a aussi tous les enjeux de donc par exemple de quantification carbone, mais du coup de permanence de la forêt. Et donc cette permanence, il faut pouvoir la garantir, mais si vous n'avez pas sur place d'experts forestiers, donc qui est le pilote à bord en fait? Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, j'ai planté une forêt en 2020, je repars et j'attends de voir en 2040 si elle est toujours sur pied. Nous, par exemple, en France, quand on plante une forêt, alors je dis nous écoterie, mais c'est aussi tous nos confrères et amis forestiers, nous, une plantation, il y a un suivi, un protocole de suivi très précis sur les 5 premières années. C'est-à-dire que vous revenez régulièrement sur la parcelle, vous regardez si les plants sont en bonne santé, vous évitez qu'il y ait de la concurrence sauvage avec de la végétation, vous jouez sur les équilibres, vous regarnissez quand il faut regarnir. C'est une vraie couveuse avec une vraie vigilance paternaliste qu'on assure et qui est assurée du coup par ce très beau métier qui est le métier de forestier.
Ce qui veut dire que vous travaillez main dans la main avec les forestiers au quotidien.
Alors oui, alors ce qu'il faut aussi bien comprendre aussi dans notre ADN, ce qui est important, c'est que chez Ecoterie, en fait, à l'heure où beaucoup de choses opposent les genres et les personnes, nous, on a voulu rassembler et réunir. Donc ça se voit aussi dans l'équipe Ecoterie au global, puisque aujourd'hui, l'équipe d'Ecoterie, c'est une équipe de femmes et d'hommes avec des profils différents, des compétences complémentaires. Et en fait, ce sont des personnes qui réconcilient en fait le rat des villes et rat des champs, puisque aujourd'hui, chez Ecoterie, vous avez aussi bien donc des personnes qui sont forestiers, gestionnaires forestiers, que des personnes qui sont développeurs IT full stack ou data scientists, puisque derrière, on anime à travers le digital un blog où on a plus de 40 000 lecteurs. On est présent sur les réseaux sociaux, on anime des podcasts, on anime des e-learning, on fait des formations de sensibilisation sur les enjeux de la forêt, tout ça avec des outils du digital. On lance, parce que la moitié de notre activité, c'est une activité où on veut engager et embarquer les entreprises sur des projets bas carbone ou des projets où elles viennent financer à nos côtés des projets forestiers, des projets de biodiversité. Par exemple, là, tout récemment, ce confinement a permis de rouvrir sur une nouvelle forêt l'installation d'une trentaine de ruches où les entreprises peuvent venir les parrainer. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est cet équilibre et cette mixité de talents qui fait qu'on peut agir et réaliser à bien nos missions au quotidien.
À l'image de la forêt, en fait, de l'ensemble des variétés et des espèces qu'on peut trouver dans la forêt.
Exactement. On n'est pas monoculture.
Je voulais rebondir sur vos clients. Qui sont-ils ? Donc, vous avez mentionné les entreprises. Oui. Est-ce que les particuliers aussi peuvent acquérir des arbres ?
Pour 50% de nos clients, donc, ce sont des particuliers, voilà, des personnes individuellement qui souhaitent contribuer au grand enjeu de la forêt. Les 50%, ce sont que des entreprises. Ces entreprises, ça va de la start-up ou de l'auto-entrepreneur à des grandes entreprises. Et chacune d'elles viennent s'inscrire sur des projets qui peuvent être soit la volonté de sensibiliser des collaborateurs à travers des cadeaux arbres, soit de réduire leur impact environnemental avec des projets bas carbone, donc elles vont financer de la création de puits carbone, soit des entreprises qui veulent agir en faveur de la biodiversité. Donc en fait, à chaque fois, on inscrit des projets de partenariat avec nos entreprises clientes sur mesure, puisqu'on va étudier en fait leurs attentes et voir comment on peut s'inscrire dans leur politique environnementale d'entreprise, aussi bien aussi dans une logique aussi de mettre en avant des produits ou des services éco-responsables qui permettent d'agir vers une transition écologique vivement souhaitée.
D'accord, donc vous jouez vraiment sur les deux tableaux. Donc si on s'intéresse aux particuliers, puisque là on s'adresse aux auditeurs, oui. Pour un particulier, si je décide d'offrir un arbre, donc par exemple, disons un cèdre pour 24 euros, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Comment est-ce que je vais suivre cet investissement ? Est-ce que j'aurai un retour sur investissement dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années ? Est-ce que ce sera au moment où l'arbre sera coupé ?
Alors exactement, donc le parcours client il est simple, donc c'est une fois que vous avez acheté cet arbre sur ecotree.green, en fait vous allez avoir un espace client où sur votre espace client, bah, vous allez voir votre arbre et sur votre espace client, bah, du coup vous allez avoir les informations sur le lieu où il est planté, des informations sur la nature des sols, vous allez avoir votre facture, quoi. Vous allez avoir tous les éléments qui attestent en fait, de votre achat et surtout de la propriété de votre arbre, parce que derrière, après, depuis votre espace client, comme patrimonialement et juridiquement, vous en êtes propriétaire, vous avez aussi le droit de jouissance de transmettre cette propriété, donc c'est-à-dire d'offrir un cadeau, mais d'offrir cet actif arbre à qui vous voulez. Donc aussi, depuis votre espace client, après, vous pouvez très bien, à travers, par exemple, une carte cadeau que vous pouvez personnaliser, offrir en même temps, de façon dématérialisée, cet arbre à, par exemple, un enfant, un proche, un ami, un collaborateur, voilà. Et donc, tout ça, ça permet d'historiser, de tracer cette transmission depuis votre espace client.
Et ensuite, pour le retour sur investissement, si je puis dire, comment est-ce que ça se passe ?
Alors, nous, la logique des coteries, elle est très simple. Donc, c'est vous touchez des revenus le jour où il y a des coupes en forêt. Donc, à chaque arbre, vous avez un cycle de vie, comme à chaque forêt d'ailleurs. Et donc, vous percevez un revenu à la fin du cycle de vie de l'arbre. Selon les défis forestiers, il peut y avoir des coupes qui interviennent en forêt entre 7 et 77 ans. Donc, on est vraiment sur le temps de la forêt et on est vraiment aligné sur le cycle de vie de la forêt. Il n'y aura pas d'anticipation de revenu pour du revenu. L'équilibre, il est vraiment sain et vertueux. Et c'est comme ça qu'on a bâti Ecotree. C'est de se dire, parce qu'on crée de la performance environnementale, on crée de la performance économique. Mais ce n'est pas l'inverse.
Et vous, entre-temps, ça vous permet aussi d'acquérir d'autres forêts et donc de préserver d'autres endroits.
Exactement. Et c'est pour ça que ça, c'est très intéressant. Parce que là, aujourd'hui, depuis le début de l'aventure, on a pu réaliser 600 hectares de projets forestiers. Donc de restauration, préservation, même ou création de forêts. Et donc du coup, ça nous permet d'être toujours, de continuer en fait à développer plus de projets sur le terrain et avoir vraiment de l'impact et être vraiment dans l'action.
Et quelle a été la première forêt achetée par Ecotree ?
Ah, alors ça, c'est un coup de cœur. C'est en Bretagne. On a fait notre premier pilote à l'époque sur une commune qui s'appelle Lougivy-Plougras. Voilà, elle faisait moins d'un hectare et c'est Et on a vraiment lancé Cautry là-dessus. Et c'est vrai que c'est un bon coup de cœur parce que bon, c'était 1 hectare en forêt, donc c'est vraiment très petit. Là, je vois aujourd'hui le plus gros projet qu'on a réalisé d'un coup, c'est 120.
Et vous, vous êtes un groupe de cinq amis d'enfance, c'est ça?
Alors oui, exactement, puisque moi j'ai rencontré mon associé, je le connaissais adolescent, et lui-même il avait un copain qu'il avait connu parce qu'ils ont été au collège ensemble, et en fait on s'est retrouvé comme ça. Donc ce qui est vrai c'est que c'est né d'une histoire de copains. Mais d'une histoire de copain qui a professionnalisé une idée.
Et j'ai lu dans une interview que l'idée était née à Copenhague, donc au Danemark.
Exactement.
Aujourd'hui, vous avez un bureau au Danemark.
Voilà, on réconcilie aussi avec le déclencheur de départ, parce qu'en fait, ce qui a fasciné, en fait, ce qui nous a fasciné, c'est que le modèle danois, il est. Leur réputation n'est plus à faire ou à refaire. Ils sont avant-gardistes sur toutes les thématiques et les enjeux de transition écologique. Ils ont beaucoup d'avance. Ils sont et donc du coup, pour nous, c'était un terreau très favorable d'inspiration, de se dire au Danemark, ils ont compris plein de choses. Et ce qui est vrai, c'est que nous, en France, au lieu de récompenser quand on veut mettre des choses en place, on sanctionne. Alors qu'au Danemark, ils ont une logique. Si vous faites bien, vous avez une récompense. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi qu'on a instruit le modèle de la propriété de l'arbre avec un retour sur investissement, de se dire, la personne qui vient financer un arbre, qui s'inscrit dans le temps de la forêt, qui est des cycles longs, et qui a un impact par son mode de consommation ou son mode plus d'action, il faut la valoriser, il faut la récompenser. Et oui, les revenus, s'ils interviennent dans très longtemps, ils iront peut-être pas pour la personne en elle-même. Mais ils iront pour justement ses enfants, ses petits-enfants, et finalement c'est tout le bon sens de la logique intergénérationnelle et de la logique de dire qu'on construit pour les générations futures. Et donc le Danemark était vraiment un vrai terreau parce que eux, ils ont encore les bouteilles consignées, voilà. Et donc du coup, on est convaincu que y a beaucoup à puiser dans les bonnes pratiques qu'ils ont au quotidien.
Ça, c'est certain. Et donc, le bureau basé au Danemark, c'est pour développer ce marché, pour acquérir de nouveaux clients danois.
Exactement, en fait. Donc, il faut le voir vraiment comme une sorte de hub où, depuis Copenhague, en fait, ça adresse 5 pays. Ça adresse donc le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Pays-Bas, alors même 6, pardon, et les UK. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de fédérer, de trouver des clients aussi bien particuliers qu'entreprises qui viennent financer des projets 100% made in France. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi assez novateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui agissent dans le monde pour la forêt, hein, dans le monde. Mais en général, c'est souvent des acteurs français qui vont financer des projets hors France. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui va chercher des acteurs étrangers pour apporter du financement à la forêt française, à son renouvellement et à sa gestion durable. Donc l'idée, c'est d'agir là où il y a du vide, et comme la nature a des horreurs du vide, c'est pour ça que on a cette conviction profonde qu'il faut un élan européen aussi, et qu'on a décidé d'ouvrir ce bureau à Copenhague. C'est ce cumul de toutes ces raisons de bonnes pratiques, avant-gardistes surtout, et sur le fait de mobiliser aussi les Européens au sujet de la forêt française. On a créé aussi Écoterie sur une conviction de se dire s'il n'y a pas d'économie de la forêt, il n'y aura pas de développement de projets durables de grande échelle. Donc on a vraiment à cœur, sans privilégier l'un vis-à-vis de l'autre, qu'il faut une équation entre économie et développement durable. Et écologie, en fait. Il faut qu'il y ait une équation écologie-économie, puisque c'est l'économie qui peut être un levier, s'il est bien utilisé, formidable pour faire de l'écologie.
Ouais, Je suis d'accord, bien évidemment, et je pense que c'est primordial. Ce que j'aime bien avec Écoterie, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous recevoir au micro, c'est que nous, en tant que particuliers, on peut aussi agir. C'est pas uniquement pour les entreprises.
Exactement. Et justement, alors pour vous dire à titre très personnel, moi, ce qui m'a toujours frustré et qui continue, c'est toujours les gens qui sont capables d'être dans de la critique ou dire non, non, mais ça, c'est pas possible, on peut pas faire, il n'y a pas d'outils. Donc, en fait, qui sont souvent les gens qui veulent fuir les problèmes au lieu de les affronter. Nous, on s'est dit, on va construire un projet où l'unité de base, c'est un arbre. Et donc, en gros, que toutes les mauvaises volontés qui disent « moi, je ne peux pas faire, je n'ai pas les moyens d'action parce que c'est réservé qu'à des très grands, des grandes entreprises ou autres », c'est faux parce que dès un arbre, n'importe qui peut être acteur à la portée de ses moyens et de sa volonté. Donc, on a mis justement volontairement en place un outil qui se veut universel, qui se veut accessible à tous et très démocratique. Donc, pour enfin éviter les excuses de « je ne savais pas, je ne peux pas faire ». Non. Et un peu contourner les râleurs ou les inactifs qui aiment toujours être dans la critique sans être dans l'action.
Je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais envie de vous poser pour en apprendre davantage sur Écoterie. À la fin, j'aime bien terminer avec des petites questions de fin, donc un peu plus simples, un peu plus tac au tac et davantage centrées sur vous en tant qu'invité. Est-ce qu'il vous reste un geste écolo à adopter ?
Alors, bien évidemment, ça serait, je serais un grand hypocrite si je disais que je faisais tout bien. Le geste écolo, alors à titre personnel, j'ai volontairement sur l'année 2019 et je continue sur l'année 2020 à réduire mon nombre de kilomètres parcourus en voiture. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que je souhaite continuer à faire le moins de kilomètres possible. La période de confinement le facilite grandement. Ce qui est vrai, c'est que je voyage pas. Donc en fait, je prends pas l'avion. Voilà. Donc c'est et ce qui est vrai, c'est de j'aimerais beaucoup, mais ça c'est un objectif et un défi familial d'arriver à tendre au zéro déchet, et là c'est vrai que très clairement on en est loin.
C'est pas facile aussi pour une famille de 6 personnes, c'est pas évident.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un film, un livre, un documentaire que vous aimeriez recommander aux auditeurs, donc aussi bien sur l'environnement que la forêt, que n'importe quelle thématique en lien avec l'écologie?
On avait fait parler sur notre blog Écoterie là. On avait parlé de, c'est court, mais sur le, il y avait eu un dossier qui a été fait sur les arbres remarquables, avec un angle de vue sur la logique d'un patrimoine à protéger.
Ah, ça peut être un article intéressant. Je l'indiquerai dans la barre de description de l'épisode pour les auditeurs. Je vais le rechercher sur votre blog, sachant que c'est un blog qui est très bien alimenté, très complet. Et donc, j'invite vraiment tous les auditeurs à y jeter un œil. Hein. Vous avez énormément d'articles sur autour de la forêt, mais c'est assez varié.
Exactement. On essaye d'aborder plusieurs sujets quoi, qui sont tous connexes autour de la forêt, autour de la biodiversité, autour des enjeux carbone, climat.
Et dernière petite question de fin, si vous pouviez changer quelque chose en claquant des doigts, aussi bien à votre échelle personnelle qu'à l'échelle plus globale, nationale ou mondiale, qu'est-ce que ce serait en faveur de l'environnement ?
Sujet de philo, vous avez 4 heures. D'arriver qu'en France, on ait le courage d'avoir des décisions politiques fortes sur les enjeux de transition énergétique et écologique.
C'est mon ambition et mon souhait aussi.
En fait, ce que je trouve frustrant, c'est que alors, si on sort que de la logique idéaliste, mais en étant aussi connecté les pieds sur terre, en fait, on connaît les voies et les chemins empruntés, on les sait. On a des sachants, des experts qui depuis des années nous le rappellent et nous montrent comment faire. On a les outils en soi, on a la méthodologie. En fait, il manque juste l'acte de volonté. C'est pour ça que je parle bien de courage politique, parce que, alors, On peut. Alors après, c'est aussi une chaîne de responsabilité. Hein. On peut dire c'est les politiques qui ne font pas. La réalité, c'est qu'on est tous acteurs. Hein. Et on fait tous partie de cette chaîne. On est tous un maillon de cette chaîne où le courage politique, il est aussi à l'échelle individuelle de se dire qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie d'aujourd'hui pour contribuer à ces grands défis. Donc ouais, c'est peut-être qu'il nous manque en fait du courage et de la volonté.
Bien sûr. Et puis en tant que citoyen, à notre petite échelle, on peut faire plein de choses. On peut s'engager au sein d'une association. On peut faire bouger les lignes dans l'école de nos enfants. Enfin, il y a plein de moyens d'action. Et c'est aussi de la politique à plus petite échelle.
Exactement. Et ce qui est vrai, c'est que moi, je suis impressionné parce qu'il y a quand même beaucoup des choses positives, hein, et parce que qui changent. De voir moi, ma fille de 5 ans, qui dans la rue se bat pour ramasser le moindre papier parce qu'elle dit sinon la planète est malade.
Ça donne de l'espoir.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant.
Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup pour ce temps d'échange et de partage.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à soutenir mon travail en me laissant des étoiles et des commentaires sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt!